Dans les années 60, le disque micro-sillon est le roi des ventes. Des géants de l'électronique grand public réfléchissent pour stocker de la vidéo dans son format afin de vendre des programmes préenregistrés aux familles, comme par exemple des films. À l'époque, la bande vidéo professionnelle fait 2 pouces de large, 5 cm, une dimension peu pratique pour le grand public qui pourtant se débattait avec des bobines de films 8 ou 16 mm, avec un projecteur bien plus brillant et compliqué à mettre en place qu'un téléviseur de l'époque, c'est dire. Donc il semblait logique pour les fabricants de restituer de la vidéo à partir d'un disque de 30 cm de diamètre. Ce qui veut dire passer d'une bande passante de 15 kHz pour de l'audio à 5 MHz pour de la vidéo analogique couleur. Plusieurs recherches sont lancées en même temps à la fin des années 60, chaque fabricant travaillant dans un coin. On a donc 5 dispositifs étudiés. Un système par gravure avec lecture d'oscillation d'une pointe saphir comme pour le vinyle audio. Un système avec pointe toujours dans une spirale mais qui lie la résistance électrique de la spire. Un autre type de disque mais avec un enregistrement magnétique, un peu comme les disquettes et disques durs qui pointaient leur nez en informatique. Un autre type de disque à lecture optique par transparence, un peu comme les pistes sonores sur les pellicules cinéma. Et un dernier type de disque optique, lisible, par réflectance. Le laserdisc est issu de cette dernière technologie. Un substrat de nylon transparent qui comporte d'un côté le signal modulé en hauteur et une très fine pellicule métallique d'or ou d'argent qui sert à réfléchir le faisceau de lumière pour le lire. Et le faisceau de lumière utilisé, stable et cohérent, est d'une technologie toute nouvelle, le laser. Le laser va passer à travers le substrat sur la surface lisse, va se réfléchir sur le métal, va faire le retour dans le substrat et va frapper une cellule photovoltaïque plus ou moins fort selon la hauteur de la partie miroir, dont l'amplitude d'oscillation est en dessous du micromètre. Sur les premiers appareils, la longueur d'onde de la lumière fait 632,8 nanomètres, une belle couleur rouge-orange issue d'un laser hélium-néon. Pour des raisons évidentes de sécurité et pour éviter les procès de clients devenus aveugles en bricolant leur appareil croyant qu'il brûlait, le laser à gaz fut remplacé par la suite par un laser issu d'un cristal émettant un infrarouge invisible à 780 nanomètres. La diode laser devint très compacte et surtout bien moins chère qu'un laser au gaz. La première version publique du laserdisc tournait à vitesse constante, en CAV, Constant Angular Velocity, chaque révolution du disque, donc chacune des spires, contenant une image. L'arrêt sur image est absolument parfaite, mais le procédé limitait la qualité de l'image à la bande passante disponible près du centre du disque et la durée de chaque face était de 30 minutes maximum. Le tout premier lecteur commercial fut construit par MCA et Pioneer en 1978. General Motors en achète immédiatement des camions pour ses concessionnaires automobiles. Le disque vidéo proposait une image télé absolument parfaite et un son stéréo, idéal pour la communication corporate des grands groupes, et un tel dispositif pouvait tourner sans fin dans les vitrines des magasins, sans dégradation notable d'image et sans maintenance. Mais je vous ai pas dit. Quand le laserdisc est commercialisé au public en 1978, son premier nom commercial est dans l'air du temps. DiscoVision. Alors j'imagine le désespoir de l'équipe marketing quand le reggae a tué la disco l'année suivante. Et donc le format prit le nom de LaserVision puis LaserDisc avec lequel il eut plus de succès. Ouais. Deux noms. Un pour l'appareil, un pour le disque. Le plus connu allait devenir un cauchemar pour les commerciaux de Philips et Sony qui eux préparaient la sortie du compact disque. Au même moment, et c'est une digression, Universal combattait les magnétoscopes en assignant Sony devant la justice pour complicité de piratage. Inutile de dire qu'un format vidéo qui ne peut que lire des disques préenregistrés avait les faveurs des majors. La suite, vous la connaissez. Pioneer racheta les parts dans le consortium Laserdisc des deux autres créateurs, Philips et MCA, et devint le principal mainteneur du format. Histoire de rire, RCA, qui était une entreprise américaine gigantesque, se payait le luxe de développer un autre format vidéo sur disque, le SelectaVision, utilisant un stylet suivant un sillon plutôt qu'un laser glissant sur une surface lisse. Bien que moins cher, le SelectaVision était bien plus fragile, se dégradait à l'usage et sortit bien trop tard, en 1981, alors que le LaserDisc s'était déjà fait la réputation de support vidéo haute qualité. Et depuis les films Star Wars, tout le monde ne jurait que par le laser. L'une des premières évolutions proposées au LaserDisc fut la lecture en CLV, Constant Linear Velocity, où la vitesse de rotation du disque ralentissait quand la tête de lecture s'approchait de l'extérieur. La longueur métrique, lue étant constante, on peut stocker plus de vidéos par face, environ 64 minutes. Seuls les lecteurs très haut de gamme dispensaient le lecteur de retourner le disque en pleine course-poursuite. Le laserdisc fut vite asservi à des ordinateurs pour être utilisé comme borne vidéo interactive et forcément, il devint la star des bandes d'arcade avec les jeux Dragon Slayer et Space Ace, de vrais dessins animés interactifs du légendaire réalisateur Don Bluth, inventant les QTE, Quick Time Event, que le joueur devait réaliser dans le temps programmé. Si le joueur suivait exactement le tempo de l'animation, il survivait jusqu'à la scène suivante. Mais le laserdisc restera un marché de niche. Trop cher, des évolutions incompatibles et toujours liées à une des plaies de la télévision analogique de l'époque, l'incompatibilité entre les systèmes NTSC américain, NTSC japonais, PAL et SECAM. Le principe qu'un disque coûte peu cher à produire ne marche qu'avec de gros tirages, en les pressant par centaines de mille. Or, entre-temps, le prix des magnétoscopes VHS devint largement plus démocratique pour un support enregistrable permettant de lire 4 heures sans interruption. Les VHS préenregistrés pouvaient s'industrialiser avec des duplications accélérées pour un investissement moindre par rapport au laserdisc. Mais le laserdisc reste pour les cinéphiles le format sur lequel on trouve la meilleure qualité de reproduction pour des films dans leur montage original, surtout s'ils ont été remaniés entre-temps, censurés ou dont les masters originaux ont été perdus. Comme la première trilogie Star Wars ou encore Akira dont les éditions Blu-ray ont les détails écrasés par les mauvaises restaurations numériques. Le laserdisc fut un support coûteux pour une restitution haut de gamme et qui vécut au Japon jusqu'à l'arrivée du DVD en 1997. Alors pourquoi avoir parlé du laserdisc ? L'évolution qui nous intéresse dans ce format fut qu'il intégra assez vite à côté d'une piste stéréo analogique, une piste stéréo numérique au format PCM dans les résolutions de son fils spirituel, le compact disc.